Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ouais les gars, par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois sur la faillite des dirigeants français, puis leur incapacité à tenir le cap sitôt qu'il y a un petit peu des remous, moi je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de coincer Franck et de discuter avec lui de l'évolution du football, comment il voit ça, comment il a vu ça durant les 20 dernières années. Je sais que Franck a une petite semaine cool la semaine prochaine, je pense que ce serait pas mal. Même si Matt, tu risques d'être un peu jet-lagué, qu'on puisse cuisiner le Péranaise lundi ou mardi prochain. Donc si ça vous dit, je lance le kidnapping et puis et on valide, ok? J'attends votre réponse.
Ça va les caps, messieurs? J'espère que ça va. Je suis toujours en Thaïlande, du coup je viens juste d'avoir ton message, Edouard. Mais ouais, je suis super chaud si on peut avoir Franck pour évoquer ces sujets. Je pense que ça va être un régal. Donc je rentre dimanche, donc parfait pour lundi ou mardi. Tu me confirmes l'heure et puis je serai là avec grand plaisir et plein de questions. Allez, je vous embrasse. Salut les gars.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
Salut à tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce mois de pluvieux et gris de février. Surtout qu'on... Alors, c'est un peu particulier parce qu'on reçoit quelqu'un chez lui.
Ouais.
C'est pas commun. Ouais.
Putain, j'aurais dû faire des petits fours et des trucs. J'ai rien, j'ai même pas un apéro.
Ouais, t'inquiète, on fait pas un chocolat et café avant, donc tout va bien. Oui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Franck Hanez, fondateur du groupe Sopress, chez lui, dans ses murs. Salut Franck.
Ça va?
Ouais, ça va très bien, et toi?
Bah ouais, super.
Monsieur Cissé.
Salut.
Comment allez-vous?
Toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, t'es
exactement.
Tout bronzé.
Eh bah, bon, écoute, pour ne rien cacher à nos auditeurs, je suis rentré hier soir à 19h30 de Thaïlande, après des vacances en famille. Donc tout va bien. Là, il est 16h35 à Bangkok, donc je suis en train
de
téléphoner. Je suis bien, je serai pas jet lag avant quelques heures. Donc normalement, je vais pouvoir donner.
Puis on est content de recevoir Franck.
Bah, c'est...
Parce que c'était pas évident.
J'aurais été très content d'être en Thaïlande, je vais pas te mentir. Enfin, je suis très content d'être ici, mais si j'avais pu être en Thaïlande juste avec toi, juste avant, tu vois, on aurait fait le retour ensemble.
Exactement.
Putain, ça, je prenais ça.
Et bah, la prochaine fois, on se calera mieux, comme ça, on fera le podcast en Thaïlande.
Ah, oh, putain, ouais.
Alors. Ça fait un moment qu'on forcément on avait envie de te parler. C'est super qu'on puisse le faire aujourd'hui. L'idée qu'on a eue avec le concours de la conscience qui n'est pas de l'autre côté de la vitre, il va je pense revenir bientôt. L'idée c'était de parler alors pas de tout et de rien parce qu'on va quand même se cadrer un petit peu, mais c'était voilà de réfléchir ensemble après 20 ans de SoFoot, quelle était ta vision de cette industrie. Tu sais que chez Alternative Football, on est très foot business et je pense que ça nous permettra de digresser suffisamment sur de vastes sujets qu'on a déjà un petit peu évoqués. Nos amis d'Olson nous ont déjà enregistrés en off, donc je pense qu'ils vont s'amuser, au montage parce que ça fait quelques minutes qu'on parle déjà. Mais comme le veut la tradition d'AF, je laisse Monsieur Cissé te poser la question traditionnelle pour ouvrir le podcast.
C'est une petite question très sympa, tu vois, c'est quel est ton lien avec le foot?
Je pense que c'est comme tout le monde, tu sais, tu découvres. Moi, j'ai commencé le foot à 4 ans, en fait. Et moi, je voulais être toi, en fait.
Footballeur professionnel.
Et j'ai raté.
Au moins, t'as l'honnêteté de dire que j'ai raté.
Ouais.
T'as un peu l'histoire de.
Non,
de,
c'est
de...
pas la blessure ou le machin ou le truc. Ou... Non, j'ai raté, tu vois, mais j'y ai cru longtemps, c'est ça qui est triste. C'est que vraiment, je pense, jusqu'à. 17-18 ans, je pensais que je pouvais y arriver, quoi. Ouais. Et même t'as vu tout à l'heure en off, je t'ai quand même dit si Jocelyn Gourvennec il a besoin d'un libéro.
C'est là où j'ai vu que
le truc problème. Il y a un vrai problème.
Alors je te connais, t'es super objectif, tu vois, mais là il y a un moment donné à parler foot, il a vrillé un peu.
Mais tu vois, le truc c'est que ça part vraiment jamais, ça non. Tu vois, même
ça part jamais. Ben en fait t'as toujours l'envie. Et ce qui est horrible, c'est que aujourd'hui quand je joue, tu sais moi quand j'allais voir mon père quand il jouait en vétéran, je me disais mais pourquoi tu continues à jouer à cet âge-là, ouais. En fait. T'es lent, c'est nul, ça veut rien dire. Il avait 35 ans. J'en ai 10 de plus. Même plus. Ouais. Et quand je continue à jouer sur un terrain, mais je te jure, je me dis pourquoi j'inflige ça à mes partenaires, ouais. Pourquoi je m'inflige ça à moi-même. Et en même temps, j'adore. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui me fait plus kiffer que de faire un match de foot. Quoi.
Tu joues avec des mecs plus jeunes ?
Ouais.
Ouais, ouais. Putain, ça, c'est ouais. Dur, c'est super dur.
Mais même maintenant, la dernière fois, j'ai fait un match avec les potes de ma fille qui ont 18 ans, tu vois.
Ouais, je peux pas.
Et, impossible. Tu vois, ils avaient entre 18 et 20 ans, tu vois. On leur a mis grâce. Et moi, je suis arrivé sur le terrain, je leur ai dit, les gars, on va faire un truc très simple. Moi, je peux plus faire ce que vous faites, en fait. Donc, je vais jouer avec un maillot blanc. Et à la fin, il y aura pas une trace de transpiration. Mais on aura gagné.
Tu leur as dit.
Je suis allé les voir à la fin du match, je leur faisais sortir mes aisselles. Je leur disais, les gars, j'ai pas couru.
Placement.
Mais on a gagné.
La magnifique. Tête. Vous jouez avec vos pieds, vous courez comme des bourrins, mais vous jouez pas avec votre tête. Moi, j'ai plus que ça.
Le toucher, le talent.
La cabeça.
Mais par contre, il y a rien qui va vite maintenant. C'est très, 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 très triste, quoi. Mais voilà, c'était ça mon lien. C'était, enfin, moi, le foot, c'était toute ma vie jusqu'à 18 piges, quoi. Les meufs, ça n'existait pas. Il y a rien qui existait à part le foot, quoi. La musique a commencé à partir de 16-17 ans, tu vois.
Ah ouais, quand même. Mais, putain, c'est énorme.
Mais sinon, c'était que le foot, quoi. Donc. Et ce qui est marrant, c'est que mes potes qui sont devenus pros, qui jouaient avec moi quand on était en cadet, machin, etc. Après, je les ai retrouvés avec SoFoot, tu vois.
Grâce à SoFoot.
Et c'était marrant, tu vois, d'interviewer Abdeslam Ouadou et de l'appeler, ouais. Et lui dire Abdes, machin, c'est lui, non. Mec, vas-y, viens, on se fait un foot. Et je dis, c'est fini pour moi. C'est fini, moi, j'ai pas réussi. Et donc, t'as toujours une petite frustration et en même temps, tu sais pourquoi. C'est ça qui est bien. Enfin, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que tu vois. Pourquoi il y en a qui passent le cut et pourquoi toi tu passes pas, quoi. Tu vois bien qu'il y a un truc de mental, de physique. Mmh. Tu vois, des gens.
C'est bien que tu le dises, que tu le soulignes.
Mais en fait, et du coup, et notamment la création de SoFoot Club est liée à ça. C'est parce que, tu sais, le foot, à un moment donné, très vite, c'est devenu un truc où, et je l'ai beaucoup plus vu en tant qu'observateur, où en fait, l'ambition, c'était de gagner de l'argent, d'avoir des grosses bagnoles, de se taper des meufs super, nanani, nanana.
Ça, c'est après 2000, hein.
Et, ouais.
Ouais, tu vois, c'est ça.
Avant, c'était pas ça, tu vois. Ouais. Mais après les années 2000, ça commence à être vachement ça. Un peu bling-bling, machin. Et en fait, quand on crée SoFoot Club, l'idée, c'est de rappeler aux gens que quand même, pour faire ça, c'est un parcours, quoi. C'est-à-dire que faut des sacrifices, faut bien bouffer, faut s'entraîner dur, faut des compétences, faut du talent. C'est pas juste 11 mecs qui courent après un ballon et qui gagnent de la thune, en fait. Et du coup, tu reviens, enfin, on avait envie de revenir à un truc, et tu regardes tous les premiers SoFoot Club et tout, t'as beaucoup de trucs sur les centres de formation, sur ce que c'est que le métier de footballeur.
Il faut aimer déjà.
Voilà.
Il faut aimer ça. Aimer le foot.
Et puis t'en bouffes, et puis faut un mental. Il faut un mental de ouf. Moi, ce qui m'a... Tu vois, j'ai des potes qui étaient vraiment pas très bons techniquement, tu vois, mais qui avaient un mental, mon pote. Les mecs, ils jouent en équipe B quand on était en pupille, en minime, machin. Et à la fin, eux, ils finissent pro, quoi. Mmh. Eux, ils intègrent un centre de formation parce que les gars, ils ont la tronche et qu'ils lâchent rien. Tu vois, ils lâchent rien.
On en a parlé quelques fois de ça, mais je pense que t'as... C'est quasi imperceptible quand... Enfin, pas imperceptible, mais les gens n'arrivent pas à le comprendre quand, dans leur entourage proche, ils n'ont pas de footballeur, ils n'ont pas suivi de footballeur, compétition, etc., de la difficulté de ce métier-là.
C'est très difficile.
On parlait sur il y a 2-3 épisodes, justement, de la composante mentale. Et je te rejoins complètement. C'est que t'as, je pense, plus de footballeurs aujourd'hui qui sont arrivés où ils en sont... de par leur qualité mentale et leur dureté, si tu veux, mentale, que de par leur qualité technique. Et quand tu prends...
Il en faut des qualités techniques. Mais les qualités techniques, aujourd'hui...
Qui sont déjà exceptionnelles, mais en comparaison à d'autres...
Non, mais t'as des joueurs qui, techniquement... Enfin, je veux dire, t'as aucun joueur de foot aujourd'hui, quasiment, qui va rivaliser avec les mecs, techniquement... Enfin, techniquement, en technique pure de de maniement de ballon avec les espèces d'otaries que tu vois fleurir partout maintenant, qui, les freestylers qui font des trucs, etc. Sauf qu'un freestyler, tu fous sur un terrain 90 minutes. L'intelligence mathématique du foot, il l'aura pas, parce que on avait fait un numéro de SoFoot il y a quelques temps sur l'intelligence du footballeur. C'est un de mes numéros préférés.
Ouais, oui, très très bon.
Parce que c'est un vrai numéro qui t'explique que le footballeur, il a une intelligence géométrique qui est hallucinante, en fait. Et se placer sur un terrain, voir les espaces, les jouer correctement, etc., etc. Déjà, c'est pas donné à tous les footballeurs. T'as des footballeurs qui sont beaucoup plus doués. Tu vois, en off, on parlait de Riquelme. C'est un mec qui a une intelligence géométrique qui est hallucinante, tu vois, et qui est sans doute bien plus importante que plein d'autres footballeurs. Et ça fait une différence. C'est-à-dire que lui, physiquement, c'est pas un mec qui va très vite, mais par contre, il voit le jeu comme peu de gens le voient, quoi. Mais t'as un papin. Tu vois, où tu vas dire, oh, c'est un teubé, papin, machin et tout, etc. Ah, il aligne pas trois mots. Papin, les placements. Mais pour se placer comme il se plaçait, faut être intelligent, en fait. Tu vois, tu peux pas. L'intelligence, c'est pas juste avoir lu des livres et être érudit. Et
tu sais ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que. Alors, je me dis tous les sportifs, mais on va parler du foot. Mais les footballeurs, ce qui est compliqué chez nous, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais concrètement, la trajectoire de la balle, lire la trajectoire de la balle. On sait qu'il faut que notre corps il doit être positionné comme ça, que notre pied il faut qu'il attaque avec cet angle-là. Pourquoi ? Parce que sinon il va aller en l'air et tout ça. Et donc ça on n'arrive pas à l'expliquer. Mais si t'es un mathématicien, il va t'expliquer oui, il faut prendre la courbe, la tangente, de je sais pas quoi, l'intégrale. Nous on sait pas l'expliquer parce que c'est naturel. Ouais. Donc c'est pour ça que les meilleurs qui parlent football, c'est très souvent jamais les footballeurs. Ouais. parce que c'est, va expliquer quelque chose qui est naturel,
qui est inné chez toi. Et ça, ce que tu dis, ça me fait penser à, je crois que c'est avec Myriam Selmi qu'on avait parlé de l'intelligence des footballeurs. Il y a aussi à l'époque on avait pris Franck Ribéry comme exemple, je crois, c'est la capacité de faire exactement ce qu'il faut au moment où il faut. Tu vois, c'est pareil parce que effectivement.
Et c'est marrant que vous ayez pris Franck Ribéry pour ça.
Parce que tu trouves que.
C'est pas celui que j'aurais pris.
T'aurais pris qui?
Je sais pas.
On l'avait pris parce que c'est quelqu'un à qui le procès d'intention de la bêtise est beaucoup fait.
Ouais, ouais.
On considère qu'il est bête parce que. Ouais.
Mais moi, je considère pas du tout qu'il soit con pour le coup. On avait une vanne à SoFoot à une époque quand il avait sa cicatrice. Je crois qu'on l'avait écrit dans son portrait d'ailleurs. On avait dit cicatrice parce qu'on lui a enlevé le cerveau pour le mettre dans ses chaussures. Mais ce qui n'est pas un truc sur la bêtise, en vrai. C'est-à-dire que tout le truc de l'intelligence du footballeur, c'est que c'est effectivement, il y a une intelligence un peu innée, enfin un truc un peu... mais c'est quand même... C'est une forme d'intelligence de savoir se placer, de savoir se repérer dans l'espace, de savoir voir des choses que les autres ne voient de savoir faire effectivement le bon geste au bon moment, etc., etc. C'est une forme d'intelligence. Et puis, tu as une forme de... Un peu comme... Tu vois, on dit que les joueurs d'échecs sont des gens très intelligents parce qu'ils prévoient le coup. Mais foot, c'est pareil. Le foot, tu as aussi une partie d'échecs. Alors, qui est en partie celle du coach, mais qui n'est pas que celle du coach. Et d'ailleurs, il y a plein d'équipes qui pourraient s'autogérer parce que tu as des gens dans des... T'as quelques joueurs dans des équipes qui sont capables de replacer toute une équipe, de jouer pour les autres, et c'est des jeux, tu les vois pas en fait. C'est-à-dire que tu te dis, ah oh, putain, lui, il a pas fait un gros match. Mec, il a bloqué tous les espaces, ou alors il a créé toutes les brèches. Juste effectivement, il a pas marqué de but. Mais et alors ? Tu vois, t'as des attaquants comme ça, qui étaient hyper utiles et qui marquaient pas de but, tu vois. Ouais. Moi, j'ai joué devant, même à mon petit niveau. Moi, j'étais plutôt un mec qui marquait beaucoup de buts, mais je marquais pas. Si je jouais avec un attaquant à côté qui bouffait tous les espaces, je marquais rien, tu vois. C'est-à-dire que t'es obligé d'avoir un mec qui va te créer les situations. Et c'est souvent des gens qui sont mal perçus, mal analysés, et qui sont hyper importants, et qui sont des gens très très intelligents footballistiquement parlant, quoi.
Ce que tu dis sur les notions de placement, la capacité à anticiper, ça me fait penser à ce qu'a dit Mike Maignan il y a quelques semaines, et qu'un truc que mon pote Quentin Westberg, qui est gardien à Atlanta aujourd'hui, me dit souvent, c'est le plus bel arrêt que je fais, c'est celui que j'ai pas besoin de faire. Parce que j'ai placé mes mecs, parce que je suis aligné ma défense, j'ai pu leur parler pendant un temps, dire, celui-là va faire ça. Et ça, tu vois, c'est le témoignage du footballeur qui dit, il n'y a pas que le fait de mettre une balayette à Riquelme ou de faire le bon tir, c'est aussi de savoir évoluer dans un espace et de comprendre quelles sont les dynamiques dans cet espace.
Il a raison, mais va expliquer ça après à son président qui lui fait un chèque, le directeur financier qui te fait un chèque à je ne sais pas combien, tu n'as fait aucun arrêt. Bah ouais, mais parce que je suis bien placé.
parce que j'ai pas besoin.
Tu nous coûtes cher quand même.
Alors on a déjà digressé et c'est ce qu'on aime, pour revenir sur le business. Mais du coup pour revenir un peu à notre sujet de base, est-ce que comme le dit Kylian, du coup Franck, le football il a changé?
Le football, ouais.
Enfin, attention parce qu'il a déposé le.
Il a déposé la phrase. Ouais. Le football il a changé, Kiki. Ouais, vachement et pas forcément pour le mieux, mais je veux pas faire le vieux con non plus parce que. Moi déjà, il y a un truc qui est il y a le football qui a changé et c'est consubstantiel de la diffusion du football. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une époque où le football était encore rare et était un événement et t'avais envie de suivre les matchs et c'était un truc que tu attendais et qui était, tu vois...
T'avais du foot en clair ?
Il y avait du foot en clair, mais tu vois, je pouvais attendre un Auxerre à Duke Split, mais ça me faisait toute ma journée parce que maintenant, des Auxerre à Duke Split, bon, il n'y en a plus en l'occurrence, mais tu vois, ce genre de match... T'en as trois par jour, en fait. Enfin, t'en as tout le temps, en fait. Mmh. La télé, il y en a tout le temps, parce que c'est comme tout, en fait. Dès que tu peux prendre de l'argent, les gens veulent en prendre de plus en plus. Et donc, faut mettre de plus en plus de foot à la télé, parce que ça génère du cash, et parce que pour l'instant, la machine n'est pas encore enrayée, et que les gens continuent de regarder. Jusqu'à quand, je sais pas. Les droits, ça devient des sommes hallucinantes. C'est même plus, enfin, le commun des mortels peut même plus se représenter ce que c'est. Les salaires des joueurs. Ça ne veut plus rien dire. C'est n'importe quoi, tu vois. Et en même temps, je comprends. Enfin, c'est la juste répartition des richesses. Il y a un environnement qui crée énormément d'argent. Cet argent est redistribué aux gens qui créent cette richesse. Mmh. Je comprends ça. Et je n'ai pas de souci avec ça. Donc, je ne vais pas te dire, ah, les mecs sont trop payés ou quoi que ce soit. Je pense que le système est malade de sa boulimie d'argent et se goinfre beaucoup trop. Et du coup, ça va à l'overdose. Et à la fois, il est aujourd'hui sans doute très viable et il y a plein de gens qui en profitent et ça crée plein d'emplois, etc. etc. Donc il y a des choses forcément très positives. Et après, les gens qui payent plein d'impôts et ça permet d'avoir des hôpitaux, tout ce qu'on veut. Sauf que malheureusement, on a perdu un peu une vision un peu romantique du football malgré tout quand même. Et l'aspect émotionnel du foot, je trouve... Et un peu parti. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai vieilli, ou est-ce que c'est parce que j'y ai passé trop de temps, ou est-ce que c'est parce que je l'ai côtoyé de trop près, aussi, peut-être. Mais voilà, il y a un petit... tu vois, quand on a lancé SoFoot, je me souviens, il y avait un... Le foot business, c'était un peu le mal. Tu vois, c'était un truc genre... Wow, et je me rappelle, la figure du foot business, c'était Olas. Tu vois, ça fait rire maintenant, ouais. En vrai. Mais à l'époque, t'avais Olas et le foot business. Waouh. Et puis t'avais les irréductibles qui étaient contre SoFoot, les cahiers du foot, tu vois, les médias un peu de gauche qui étaient là et qui étaient proches des supporters, proches des ultras, et de qui valorisaient culture. Un truc de culture foot, tu vois, et qui étaient vraiment dans un truc de qu'est-ce que c'est que le foot, l'essence du foot. On en parlait, l'intelligence du footballeur, etc., etc. Mais ce que c'est que le supporter aussi, ce que c'est que supporter un club. Vous avez fait Ourcade, tu vois, il t'explique très bien ça, ce que c'est que, et il t'explique très bien ce que c'est qu'un ultra et pourquoi, en fait, finalement, ces gens-là, c'est pas juste des mecs qui c'est pas des bœufs qui crient des slogans, c'est bien plus fort que ça et culturellement bien plus intéressant que ça. Et donc t'avais cette opposition là. Maintenant ça n'existe quasiment plus parce qu'aujourd'hui Olas c'est un nain dans le foot business. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est fou en 20 ans comme ce mec était à l'époque une espèce d'apôtre du foot business parce que il faisait du merchandising.
Il avait OL Taxi, OL Café compagnie.
Mais OL Coiffure aussi.
Je te jure. Ouais, bien sûr, il avait tout.
Bien sûr. Et maintenant, mec, mais les gars, ils se foutraient de sa gueule.
Mais la façon violente dont il est sorti, parce que je trouve que pour un mec qui était présent pour 20 ans, je trouve que c'est à l'image de la rapidité avec laquelle ce monde évolue.
Ça a été ultra rapide.
Non, ça a été rapide et sale.
Ouais. Non, mais tu vois.
C'est le problème avec l'argent. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de. Les gens. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Ils s'en branlent. Il n'y a plus rien qui compte à part l'argent. Donc, du coup, bah oui, c'est Olas, tu te dégages. Ouais. Tu ne vaux plus rien. C'est fini.
Ce qui est marrant, c'est qu'il s'est quand même débattu avec des armes très olassiennes, si tu veux, derrière, en allant, utiliser ses contacts.
C'est raison, il a fait ça pour pouvoir avoir gain de cause et pour redorer un peu son blason.
Mais alors que le mec était un vrai passionné, en vrai. Tu vois, moi j'ai un pote qui bossait à l'OL.
Qui était passionné. Il s'est mis dans le foot pour du business comme la plupart des
mais je crois qu'il est devenu vraiment passionné.
Et après,
Picouze. Okay. Parce que c'était le mec qui regardait les résultats des poussins. Tu vois, moi j'ai un pote qui bossait à l'OL Et Olas, il l'appelait, il disait ouais, je suis allé voir les jeunes là cet après-midi, il faudrait faire un truc sur les U13 là, ils ont fait un super match machin et tout, etc. Je me dis, oh putain, qu'est-ce que c'est que ces U13.
Ouais,
et le gars, il était, enfin tu vois, t'es président de l'OL et tu vas voir les U13 quoi.
Ouais, ça montre.
Et, que donc t'as quand même un truc, tu vois, t'es quand même mordu mine de rien. Et enfin moi, mon pote quand il m'a raconté ça, c'est ça me réconciliait avec avec le personnage avec qui j'ai été plutôt en fight.
Ouais,
pendant,
à la base.
Pendant longtemps avec avec SoFoot quoi, parce qu'il représentait pour moi le diable, tu vois. Et ben, je peux dire que le diable aujourd'hui il a beaucoup plus de visages.
Ouais. Et sur cet élément justement de d'évolution et de changement du foot, tu as mentionné à juste titre au départ le modèle économique, donc les droits. Est-ce que tu vois une alternative ? Est-ce que ce modèle qui est qu'il y a quelqu'un qui va payer beaucoup d'argent pour diffuser quelque chose parce que derrière il va recouper avec de l'abonnement et de la pub, est-ce que ça peut être dilué selon toi par d'autres sources de revenus, mieux redistribué ? Est-ce que tu as une vision sur l'alternative au modèle actuel du financement du foot ?
Alors, dilué, je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas sûr. En tout cas pas à ce niveau-là de montant et tout. En revanche, ce qui me paraît inéluctable, c'est qu'à un moment donné, ça ne génère plus autant que ça doit générer et que du coup, les droits baissent et que tout se régule. C'est-à-dire que là, tu as une espèce de bulle qui se crée, qui devient folle. Et je pense qu'à un moment donné, cette bulle, elle va malgré tout exploser parce que ça sera trop et que bah, c'est comme toute gourmandise. Quoi. À un moment donné, quand tu te goinfres trop, à la fin, tu vomis. Quoi.
En gros, on doit laisser place à de la compétence et ouais. À des vrais amours, aux vrais amoureux du foot.
Ça va mettre un peu de temps, je pense. Ouais, mais je veux, en tout cas, je veux croire à ça parce que je pense que pour les vrais amoureux du foot, ça sera un moment qui sera assez chouette. Ouais. Et ouais, je pense qu'à un moment donné, le truc va exploser, et puis tout à coup, on va revenir sur des trucs qui seront un peu plus décents. J'allais dire normaux, mais ça sera jamais normal, et ça n'a jamais été normal. Tu vois, les footballeurs ont toujours assez bien gagné leur vie. Et
pas tous.
Mais même.
Même en comparaison,
tu vois, même dans les années 80, alors peut-être s'il y a mieux, très longtemps, mais même dans les années 80, ils gagnaient mieux que le commun des mortels.
Ouais, que monsieur Michu.
Voilà. Mais effectivement, c'était vachement moins. Les différences étaient. L'échelle était très différente. Mais bon, ils gagnaient quand même relativement bien leur vie. Mais c'était un truc qui était. Mais ça, moi, ça m'a jamais paru illégitime.
Ah, c'est ça.
J'ai jamais fait de procès en légitimité sur le montant de gain des footballeurs à partir du moment où c'est un système qui crée une valeur et cette valeur est redistribuée. Je trouve ça très bien qu'elle soit redistribuée et je trouve ça très bien. Un jour, Vikash Dorasso me disait c'est un des seuls métiers où c'est les ouvriers qui gagnent plus que les patrons.
Ouais, c'est la pyramide inversée.
Et en vrai, d'une certaine manière, il a raison. Et je trouve ça très bien que ce soit les mecs qui bossent, donc les mecs qui sont sur le terrain, qui gagnent plus d'argent que les mecs qui
les placent.
Qui les placent, quoi. Donc ça, je trouve ça forcément très vertueux. Mais effectivement, il y a un moment donné où ça veut presque plus rien dire, en fait. Et même pour eux, je sais même pas comment tu vis.
Là, en ce moment, c'est vrai que ça déconne, parce que tu vois, avant, les salaires... Moi, j'ai connu une génération, d'une génération où les salaires étaient corrélés à ta performance, à ton CV, ce que tu avais fait, à ton track record. Ouais. Maintenant, les salaires, ils sont corrélés à une marge de progression fictive. C'est de la spéculation.
Mais comme les startups.
C'est exactement ça. Et donc, c'est terrible. Et donc, tu as des gamins qui ont 20 ans, qui prennent des salaires de 6 chiffres, mais ils ne savent pas ce que ça fait.
Enfin, c'est de la valo.
Voilà, c'est une valo. Et au bout de 2-3 ans, je te le dis, hein, l'argent est un poison et ça les tue.
Bien sûr.
Alternative Football. Alternative Football.
Moi, j'ai connu aussi le foot où les présidents, c'était pas un métier président. Aujourd'hui, tu as un métier président.
Ouais, c'est ça.
Parce que tu as des Chinois ou des Émiratis ou machin qui possèdent le truc.
Délégués,
ouais. À l'époque, moi, t'es Claude Bèze, bah, c'était son club, tu vois. Les mecs, c'était à Nantes, machin. Enfin, les gars, c'était leur club, c'était leur vie, leur histoire, c'était un truc.
Mais ils avaient,
tu vois, à Auxerre, machin. Enfin, les mecs, ils vivaient ce truc-là, même Olas, dans une certaine mesure, tu vois. C'était... Et du coup, t'avais un truc où les gars, si le club allait moins bien, ils lâchaient pas. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui était quand même aujourd'hui. t'as des Chinois, ils vont arriver, ils vont acheter le truc. Ça marche pas au bout de 3 ans. Ils se barrent.
Ils vont mettre un mec.
Bordeaux. Bordeaux, c'est ça. C'est ouais. Des Américains après des Américains.
Tu peux même dire l'OM. L'OM, c'est un peu la même chose. Ils sont allés chercher Jacques Henry, qui est au demeurant sympa. Hein. Ouais. Il connaît pas nécessairement le foot. Ils l'ont mis là
métier
parce
président.
Que voilà, ouais. Métier président, tu vas gérer ça. Mais il faut quand même aimer le foot.
Ouais.
Et là, en ce moment, c'est Pablo Longoria.
Ouais.
Bon, à un moment donné, il faut avoir des skills de management. Ouais. C'est un peu ça.
Mm. Ouais, t'as quelques irréductibles encore. Tu vois,
mais ça peut casser un club.
Avec...
Tu vois, Bordeaux, ça a cassé Bordeaux.
Bien sûr.
Bordeaux, ça a cassé Bordeaux. Ça n'existe plus, Bordeaux. Ouais. Enfin, ça n'existe plus.
C'est parce qu'à un moment donné, M6 en avait marre de lâcher des bifetons et donc ils se sont dit bon, on va vendre et puis on pense que les Américains vont faire du bien alors qu'ils s'en fichent.
Bah, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que c'est un truc de plus dans leur portefeuille en fait. C'est juste les gars, ils collectionnent des trucs, tu vois, mais au bout d'un moment, bon, bah, comme tout enfant qui collectionne plein de trucs, au bout d'un moment, ils en ont marre des cartes Pokémon et ils vont préférer les G.I. Joe. Et c'est fini, quoi.
Et t'as aussi, je te rejoins sur l'homme, c'est-à-dire que t'avais, on regarde l'homme de Bordeaux, t'es le président Trio, qui était quand même le capitaine du navire, qui garde le cap qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, tu vois.
Non, mais il était attaché, tu vois. C'est un régional de l'étape, et donc il était attaché quand même au club.
Et des présidents de ce type-là, c'est-à-dire le président qui, effectivement, tu le disais, qui ont un métier, qui sont en général patrons d'entreprise, plus ça va, moins il y en a. Alors,
imagine que moi, j'ai connu l'époque. Claude Bèze, Bernard Tapie.
T'avais que ça.
Il y avait Bourgoin.
Bourgoin, à Lens, c'était. Comment il s'appelle
Martel.
Jérémy Martel. À Sochaux, t'avais.
Plessis. La famille. Ouais, c'était des grosses familles.
Tu vois, c'était des mecs qui étaient.
C'était eux. Ouais.
C'était des passionnés en même temps. Tu vois, c'était leur vie, quoi.
Tu s'appuyais sur le territoire. Après, on va rentrer un petit peu dans un truc sociologique.
Ils étaient vraiment. Mais du coup, t'avais des régions qui vivaient de ça.
Il y a un vrai lien. C'est-à-dire que c'était pas
génial. C'était vraiment génial parce que t'avais un truc qui était. C'était vraiment des films. Enfin, la rivalité entre les mecs, elle était. T'imagines les réunions à la Ligue avec ces gars-là, ça devait être extraordinaire.
Ouais, ça fait un peu.
C'est déjà que des mecs qui mangeaient trop.
Ouais.
Donc, c'était que du plat en sauce. Enfin, tu vois, il y avait des. Les gars, ça y allait.
Ouais.
Bah, franchement, il y avait un truc. Un peu terroir et territoire que je trouvais super chouette.
Est-ce que tu...
Et qu'on a un peu perdu.
Exactement. Et tu sais quoi ? Là, récemment, là, je suis allé à Strasbourg et je trouve qu'ils sont en train de le perdre, ça. Strasbourg, tu vois, c'était Marc Keller qui récupère tout ça. Le club, il y a quoi, une dizaine d'années, il monte.
Il a fait un gros taf.
Et après, légitimement, à un moment donné, il dit pour passer un palier, il faut que je vende.
Ouais, et là, c'est fini.
Et il a vendu à des Américains, donc il est resté en poste. Mais sincèrement, à demi-mot, je vois... On comprend ce qu'il sous-tend, c'est-à-dire que c'est plus lui qui gère la politique. Ouais. Il est juste là pour calmer un peu les supporters, mais pour porter la caution territoire. Mais il a plus. Ils font venir que des jeunes. Ils sont pas encore performants. Et du coup, c'est faire mieux ou aussi bien avec moins bien. Et donc, c'est impossible, quoi.
Ouais. Le danger du MCO, c'est ça. C'est-à-dire que le multi-club ownership, effectivement, d'un point de vue business, comptable, économique, ce que tu veux, il fait du sens. Parce qu'effectivement, tu peux jouer un peu avec tes assets, les mutualiser. Donc, si je suis hyper froid et que je me mets en mode chef d'entreprise, je comprends. Le vrai danger pour le foot, c'est l'identité.
Bien sûr.
Et après, c'est comment ça va se réguler. C'est-à-dire qu'à quel point la culture va être suffisamment forte pour conserver l'identité. T'as pas énormément d'exemples,
mais
c'est le cas.
Après, ça devient la NBA.
C'est ça.
Il n'y a plus d'identité dans la NBA. C'est des marques. Ils s'en foutent, quoi. Mmh. Charlotte Hornets, s'ils jouent plus à Charlotte, tout le monde s'en branle. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus un sujet, quoi. Moi, je trouve ça dommage concernant le foot, parce que quand t'as connu ce foot-là, sans faire le vieux con, c'est quand même un truc qui animait aussi les supporters, ça créait un truc,
du territoire, voilà. Il y avait une activité économique, il y avait plein de choses.
Moi, j'étais fan de Nantes, pas parce que Nantes était la meilleure équipe, j'étais fan de Nantes parce que ma famille était nantaise et que c'était comme ça en fait. J'avais pas le choix. En fait, tu vois, j'avais pas devenir fan de Marseille, alors que moi, l'équipe qui cartonnait à mon époque, c'était Marseille, tu vois. Mais de la manière que aujourd'hui, je pourrais pas être fan du PSG. Paf.
Non mais t'as entièrement raison. Moi, je suis fan de Paris parce que je suis de Paris.
Voilà.
J'étais fan du PSG avant que ce soit cool. Hein.
Voilà. J'aime beaucoup les fans du PSG quand ils sont fans de Gérald Dao, de l'équipe, de l'époque. Tu vois,
c'est tout ça qui parle des historiques.
Des mecs qui ont connu Jean-Marc Pilorget.
Pilorget, merci de se rappeler.
Quand tu as une défense avec Pilorget, Janol et compagnie et que tu es fan de ce club-là, je respecte. Tu vois. Quand tu es fan du PSG d'aujourd'hui.
Et qu'on sort que des mecs.
C'est plus facile, c'est
ça. Moi, j'étais fan de Nantes à une époque où mon pote, Bon, encore que 85-86, ça joue pas mal à Nantes. Mmh. Après, ça commence, on commence à perdre un petit peu. Mais moi quand même, à l'époque, je suis capable d'avoir un maillot Fabien Desboté, tu vois. Bon, bah.
Cet extrait, si on peut le garder, le passer en boucle régulièrement, pour les jeunes, notamment Rémi, que je vois à travers la fenêtre, qui est né dans le sud, à Créteil, c'est ça, dans le sud de Paris, mais qui est supporter de l'OM.
Alors après, à contrario, tu vois, je vois les supporters rennais à Milan, là, récemment. Putain, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, t'as 8000 mecs qui vont à Milan, qui foutent le dawa dans la tribune.
Mais il y a une identité forte à Rennes.
Et je me suis dit, ah, sincèrement. Cool. Tu vois, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu, quoi.
Mais c'est différent, Rennes. Pourquoi ? Je peux en parler parce que j'y ai joué. Le président, il est breton, il est rennais, il est fan de foot. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que la question que j'ai envie de poser, c'est... Moi, ça ne me dérange pas qu'un club soit racheté par X ou Y ou Z, mais qu'ils comprennent la réalité de la région. Tu vois ? Pour ne pas perdre l'identité.
Ouais.
Et Rennes, c'est pour ça. Rennes, c'est l'un des projets qui me plaît le plus en France.
Parce qu'on respecte ça. L'identité, parce qu'on est encore sur un truc de valeur
footballistique. Mais c'est super important. Tu vois, quand tu vas, il y a des clubs où tu dis, c'est ni queue ni tête. Malheureusement, nos grands clubs français, ils sont rachetés par les Américains. En soi, ça ne me dérange pas. Mais appuyez-vous sur un Lyonnais, tu vois, ou des Lyonnais locaux. À Marseille,
de la même façon. C'est sûr que quand tu fais venir Héros à Marseille, oui, ça n'a bien... aucun sens.
Bah, si, le sens, c'est que oui, il aime bien vivre à Aix-en-Provence. Moi aussi, c'était bien Aix-en-Provence, mais il n'y a que ça, c'est tout. Mais tu n'es pas un régional de l'étape, tu vois ce que je veux dire. Il faut être un peu authentique.
Ouais. C'est là où je te rejoins complètement. C'est qu'en fait, on essaye souvent d'opposer les deux. Alors que ce n'est pas incompatible avec le fait de faire du business. Hein.
Ah bah bien sûr.
Tu peux faire du business. Enfin, je sais pas, les mecs, les Chinois, quand ils viennent investir dans des vins à Bordeaux, ils vont pas le renommer. Et tu vois, ils vont garder l'identité de la maison. Et sans faire d'analogie un peu trop facile et pauvre entre le vin et le foot. Enfin, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que personne ici, en tout cas, je ne pense pas, dit aujourd'hui, le foot, ça doit être des associations uniquement. Et le propos, ce n'est pas de faire le procès du business. Au contraire, c'est de dire que si le business veut être sain, il doit quand même s'appuyer sur un truc qui existe, quoi.
Ouais.
Et pas essayer de vendre des coquilles vides. Et à mon avis, le danger des MCO, je reviens à ça, quand bien même, effectivement, d'un point de vue business, ça marche, c'est de se tromper et c'est de dire, bah, on va faire une grande entité forte avec plein de filiales pour rester dans le champ fiscal du commerce. Ouais. Alors que non, l'idée, c'est de faire, ok, c'est un seul propriétaire, mais peut-être que c'est plein de points très très forts en jouant sur les spécificités du club que tu rachètes, le terreau du joueur,
le territoire. L'ancrage local. Ouais, l'ancrage territorial et le territoire, quand tu parles de ça à des clubs de foot, j'en parle, grâce à Prime, je suis souvent sur les terrains, les mecs, ils me regardent, tu parles de territoire, mais t'es un paysan ou quoi? Tu vois un peu, tu vois la condescendance? Ouais. Non, nous, c'est worldwide, tu vois,
ouais.
C'est international. Il y a que Paris qui peut faire ça, ok?
Ouais.
Les autres clubs, il y a maintenant 17 clubs en France, arrêtez, vous enflammez, il y a que Paris, avec l'argent qu'ils ont, qui peuvent penser worldwide, à l'international, ouvrir des académies à droite à gauche. Ouais. Vous, appuyez-vous déjà sur votre territoire.
Mais les clubs qui vendent worldwide, ils vendent quoi? Le Barça, ils vendent quoi? Ils vendent le drapeau catalan, ils vendent Mesquen Club.
Voilà, ils ont quelque chose.
Encore une fois,
c'est l'identité locale.
Bien sûr. Mais c'est Liverpool. Liverpool, c'est. J'étais en Thaïlande, je ne jure que par Liverpool. Oui. C'est You'll Never Walk Alone. Oui. C'est le rouge partout. Enfin, ils vendent un truc hyper local.
Ouais.
Donc, encore une fois, appuie-toi sur ta valeur, qui est ton identité. Et derrière, vois ce que tu peux faire avec, plutôt qu'essayer de.
Bah, c'est ce qui fait d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce qui manque aussi à Paris. C'est que Paris, en fait, aujourd'hui, ce qui fait la force d'un club, c'est son identité et c'est son histoire. Et on voit les joueurs qui respectent ça. Et on a toujours dit, ah, tel joueur, il se comporte très bien à Liverpool. Les mecs se comportent... Le club est plus fort que les joueurs. Tu vois, c'est-à-dire que les joueurs qui passent, alors que tu as des super joueurs qui passent, ils respectent le club et ils se battent pour le club. Et à Paris, il y a toujours eu cette question du respect du club qui était posée. Tu vois, effectivement, tu as des joueurs qui sont venus à Paris et qui n'en avaient rien à foutre du club. Ils venaient parce que la ville, mais ce qui est différent... Ils aimaient la Tour Eiffel, les fêtes et deux trois spots dans Paris, le millionnaire ou je ne sais quoi, tu vois, où tu pouvais
le milliardaire.
Ouais. Oui, milliardaire. Je sors pas assez, moi, putain. Ouais.
Ah, c'est fermé d'ailleurs.
Ah, c'est fermé. Le millionnaire, il a grossi depuis 5 ans. Il a pris des clubs. tu vois,
mais tu vois, ils vont dans des clubs avec choper des meufs et des McDonald's de champagne. Ok, super. Mais le club, il ne le respecte pas, en fait.
Je vais te poser une question, parce qu'elle est importante. Là, on parle de la culture club. J'ai joué à Paris, Marseille, Monaco, d'accord ? En France, je posais la question, une question qui aurait pu être embarrassante à un joueur actuel de Marseille. Est-ce qu'il se souvenait de l'équipe ou est-ce qu'il pouvait me citer 3-4 noms d'anciens joueurs, okay, d'anciens joueurs de l'équipe de Marseille qui avaient gagné le titre en 2010 ? C'est peu, il y a ouais. une dizaine d'années, tu ouais. me diras. Mais il y a combien d'équipes de Marseille qui a gagné le titre ? Donc c'est la dernière. Donc il a mis énormément de temps.
Alors qu'il porte le maillot de l'OM.
Il porte le maillot de l'OM. Autre anecdote, Jude Bellingham, il arrive au Real. Au bout d'une semaine, on lui fait un petit challenge et des questions, des quiz, genre combien de Champions League le Real a gagné ? Cite-moi les joueurs qui ont porté ton numéro.
Pas facile.
Tac, c'est un Anglais, il a 20 balles.
Fernando Redondo. Sorti.
Il y a, non, Redondo, non. Il y a eu Sanchez.
Il a pris le 5, non ?
Le 5, Redondo, il l'avait.
Ah ouais ?
Ouais,
top. Tu vois, t'es calé. Et tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de culture. Pour en revenir aussi Paris, Marseille, Monaco, les anciens joueurs, tu me parles de Pilarger. Les joueurs là, est-ce qu'ils connaissent Pilarger ? Est-ce qu'ils l'ont déjà vu jouer ? Non. Les dirigeants de ces clubs-là n'invitent pas les anciens joueurs.
Mais tu sais que nous, quand on fait du recrutement à SoFoot, ouais. t'as des journées de recrutement et t'as des tests de culture générale, t'as des tests de culture footballistique et t'as des tests de culture SoFoot. Ouais. Parce que c'est hyper important pour nous les kids qui arrivent maintenant en stage ici, ils sachent où ils sont. Ils viennent pas à l'équipe. Et j'ai rien contre l'équipe, j'ai rien contre machin. Mais tu viens ici, faut que tu saches où tu mets les pieds et quelque part, on a envie que tu sois fier de porter le maillot, tu vois.
Qui a bossé là, voilà. Comment, l'histoire juste.
C'est quoi ? Ça s'est créé comment ? C'est quoi les grandes couves qui ont marqué ? C'est la même chose que ce que tu racontes.
Oui, mais sauf que dans les clubs français, il n'y a pas ça.
Ouais. Mais c'est dramatique.
Je pense que c'est un
je te coupe en nouvelle. C'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas en Angleterre.
Non, mais parce que t'as où une tu connais tout.
C'est pas le cas en Turquie. Mais... une anecdote, je la raconte.
Ouais. Vas-y.
Quand j'arrive en Turquie, on est dans le stade et dans le stade il y a un mur. Avant de rentrer sur la pelouse, t'as un mur d'une vingtaine de mètres. Et t'as des mecs, t'as des photos de mecs, mais 1903, 1904. Moi, en tant que Français, je me dis, mais c'est quoi ça ? C'est des vieux, c'est des papis, tu vois. Et t'as les joueurs turcs qui t'expliquent. Lui, 1903, tu vois, il a marqué un but, tu vois, tatati, tatata. Et en fin de compte, pendant 20 mètres, pendant 20-30 mètres, il t'explique, tac, tac. Bah, tu connais l'histoire. Et ces anciens, ils venaient de temps en temps nous voir. Et donc, quelque part, il y avait ce côté respect.
Et la transmission, et les valeurs.
Je ne l'ai jamais vu jouer. Ouais. Mais d'un autre côté, je sais qu'il a porté mon maillot et je suis content. J'ai appris ça en Turquie. Ouais. En France, tu vois, les nouveaux joueurs. Ils te serrent la main, ils disent ouais t'apportes, ouais je sais pas, tu vois,
s'en foutent.
Mais c'est pas de leur faute, on leur a pas transmis.
Non, alors que en vrai, je pense que ça joue énormément sur la façon dont tu vas même jouer sur le
sentiment
terrain.
D'appartenance, quoi.
Bien sûr.
Sentiment d'appartenance.
Enfin
en France on l'a pas. Donc c'est top ce que vous faites à SoFoot. Moi c'est vraiment un gros groupe, hein. C'est génial ce que vous faites.
ce que j'observe moi pour avoir la chance tu vois, de bosser avec des clubs un peu partout, tu vois. En fait cette histoire d'institution. Et de transmission qui va avec, c'est les hommes. C'est-à-dire que c'est pas un espèce de nuage que t'as non. au-dessus, tu vois, du centre d'entraînement du Real. C'est les hommes. C'est-à-dire qui est là depuis 15 ans ? Est-ce qu'il a joué là ? Qu'est-ce qu'il fait au sein du club ? À quel point il est impliqué ? Est-ce qu'on est capable d'inviter 150 joueurs pour la présentation d'Mbappé en juillet ? Est-ce qu'ils vont tous venir ? Est-ce qu'ils vont tous avoir un bon mot pour le club, pour le président ? Et je pense que le déficit en France, que j'observe, moi, il est là. C'est les mecs qui sont depuis longtemps au club, à quel point ils sont impliqués, à quel point pour parler du PSG, on les implique, à quel point on en veut, à quel point on veut qu'il y ait une continuité entre les airs.
Alors après, le PSG, c'est un club qui est jeune.
Ouais, bien sûr, mais qui a déjà, par rapport à son jeune âge,
il y a quand même une petite histoire à
descendre. Et puis une histoire aussi avec des aspérités, c'est-à-dire que c'est un club dans sa création, dans ce qu'il a vécu après, qui a quand même, et puis c'est été adossé à une ville qui veut aussi dire quelque chose. Même si on prend d'autres exemples, Marseille.
Et puis ça, pendant très longtemps, et ça c'est quand même pas négligeable, était le pire club d'une capitale européenne,
bien sûr. Mais qui fait partie de ton identité. Non, mais je le rejoins complètement, j'étais en tribune. Donc, tu vois. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Quand t'es pareil, tu veux faire oublier ça.
Ça le rend sympathique.
Mais ça l'en rend romantique. Mmh. Mais ça, tu dois l'utiliser aussi, selon moi.
Mais pourquoi t'as pas Francis Yasser dans le...
Mais complètement.
Dans la tribune, tous les...
Je t'explique un truc. À Paris, je cite Paris parce que c'est le grand club de notre acolyte. Paris, quand ils font des ouvertures d'académie ou qu'ils veulent faire une petite tournée avec certains anciens, ils vont chercher Ronaldinho.
Paoletta
tout le temps. Pedro. Ils sont allés chercher Nico Anelka.
Ah ouais.
Nico Anelka, aucun souci avec Nico. Ouais.
Au contraire.
Ouverture en Inde, pourquoi ? Ouais, mais comme il a joué en Chine, ça peut être intéressant. Je dis, ok, j'entends. Et les autres ? Pourquoi pas les autres ?
Ouais.
À deux doigts d'appeler, je dis, appeler Beckham aussi.
Ouais.
Il a fait 6 mois. D'accord ? Mais les Ngoti, les Guérin, les ceci, les consorts, et puis encore avant, les Susic, les Daleb. Pourquoi eux, non ?
Non, ouais. Bah parce que tu transmets, parce que tu transmets pas la valeur du club, en fait.
Pourquoi eux, non ?
Tu transmets la valeur business du club.
J'entends. Alors, et le truc, c'est que je peux comprendre que les Qataris sont arrivés en 2011 et que Ibra, que j'adore, extraordinaire joueur, ce qu'il a dit, c'est une saucisse. Le club, c'est depuis que je suis là, quoi. Mm. Bah, juste lui dire qu'effectivement, franchement, quand t'es arrivé, le club a pris une autre ampleur, mais il y a eu des mecs qui ont porté ton maillot et il y a eu... Tu vois, on aurait dû lui dire. Mais sauf qu'il était... même les dirigeants étaient contents de se dire « Non, c'est vrai que depuis qu'on est là, c'est top. » Et même les dirigeants qui sont arrivés à ce moment-là, 2011, 2012, 2013, ils faisaient les coques.
Ouais,
ouais, voilà, nous, c'est pas le PSG d'avant. Sauf que maintenant, tu les vois, 10 ans après, ils ont toujours rien gagné.
Ouais.
Et là, ils ont la queue. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Mais parce qu'à un moment donné, appuyez-vous sur ce qui a été fait. Ouais. Et tous les clubs, je dis ça tout le temps, je dis ça pour tous les clubs, parce que je le vois de plus en plus.
Mais surtout que c'est beaucoup plus valorisant, en plus, de montrer l'histoire d'un club en... D'autant plus quand tu performes. Tu vois ce que je veux dire, c'est
on veut gommer tout ce qui va pas.
Regardez d'où on vient, regardez où on arrive, c'est génial. Mais montre d'où tu viens aussi, et c'est important. Et sans mépriser, tu vois.
La progression.
Et de montrer. Ben,
avant, on était soi-disant des losers. On est des années 90, losers. Mais c'est génial ça. Le storytelling.
Bien sûr.
On gagnait pas, on gagne. C'est génial.
Bien sûr.
On est passé par là. C'est constitutif de ton histoire.
Ça gagnait pas, mais remet des actions de Christian Pérez.
Ouais, mec, exactement.
Ça perdait, mais il y avait du ballon. Valdo.
Non, mais
Valdo, vois, c'était extraordinaire.
Tu vois, t'as sorti un an, il était même pas au courant. Là. Christian Pérez a arrêté comme.
Alternative football.
Je sors un peu du côté business pour partir un peu côté politique, brièvement. On a l'impression qu'au-delà de la pratique du sport, le foot est. Ou le sport de manière générale, n'est pas vraiment un sujet politique. Le foot business n'est pas un sujet politique. Je prends souvent un exemple, et je nous compare un peu avec le Portugal. Le Portugal qui exporte très bien son foot, notamment parce que dès que tu as un déplacement du président, donc comme tous les présidents, les déplacements diplomatiques, ils emmènent des patrons, des patrons d'industrie, d'autres ministres, etc.
Ils emmènent des présidents de
toujours. Foot. Les présidents, des directeurs de centres de formation, et puis ils vont vendre leurs trucs à droite, à gauche. Les mecs, ouais. ils signent pour de l'énergie, en même temps, ils signent pour...
Trois académies
ouais, exactement. Ah ouais. Pourquoi, selon toi, et sans faire de raccourcis, parce que c'est pas l'objet, je suis pas un spécialiste non plus de la politique, on a aussi après l'impression que le ministère des Sports, surtout sur les derniers mandats, c'est un ministère.
C'est la dernière roue des carrosses.
Ouais, un petit peu, oui, c'est un sous-ministère, c'est un peu... etc. Oui, bien sûr. Comment est-ce que.
Bon, je pense qu'il y a toujours eu un mépris pour le foot.
Ouais.
Mais ça revient à ce
tu
qu'on dit.
Tu penses que c'est culturel, c'est français?
Oui, mais ça revient à ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas de culture foot en France? Parce que là, il y a eu un mépris pour le foot en France depuis tout le temps. Parce que c'était un métier où des gens sans éducation pouvaient gagner de l'argent. Et ça ne peut pas exister dans ce pays. En fait, c'est mal vu parce qu'on est dans un pays élitiste. Enfin, tu vois, c'est un pays où, mais tu le vois avec le système éducatif français. Ouais. Le système éducatif français, c'est de la merde. C'est nullissime, quoi. Tu vois, c'est un système où quand tu veux faire un métier manuel, c'est-à-dire que t'es un con,
tu sors.
Ouais. C'est-à-dire qu'on sort du système.
Ouais,
on te met dans le système
alors
parallèle.
Que t'as l'un des meilleurs artisanats au monde.
Mais bien sûr. Ouais. Mais c'est complètement con. Ouais. C'est complètement con. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris encore la richesse de l'être humain, en fait. On est sur un truc débile de valoriser
les maths.
Une espèce d'intellect et qui en plus, qui n'est même pas de l'intelligence, qui est vraiment de l'érudition. Qui est un mot pour lequel j'ai un peu de mépris de temps en temps. Parce que je trouve que ça, c'est un peu la béquille des cons.
Ouais, t'as bien appris, quoi.
Tu vois, ouais.
Ouais, t'as bien appris. T'as bien récité.
T'as bien bachoté, tu récites bien, quoi. Mais en fait, derrière, ça tourne pas, quoi. Et en fait, ce pays-là, bah forcément, quand t'as un métier qui est un métier... C'est même pire qu'un métier manuel. C'est un métier apparenté au loisir. Parce qu'on n'a pas la dimension physique, d'effort physique, on n'a pas la dimension dont on a parlé, mentale, etc. Tout ça, ça a été occulté. C'est-à-dire qu'on te dit pas que pour réussir dans, on croit que pour réussir dans le foot, c'est de la chance.
La discipline. C'est la discipline.
La discipline à tous les niveaux. Mmh. Tu vois. Bah, tout ça, c'est pas, ça n'existe pas. C'est, il a eu du bol, il s'amuse. S'amuse toute sa vie, il court derrière un ballon. Quoi.
C'est facile. Quoi.
Tu vois. Vas-y, cours, on va voir si c'est facile. Parce que je sais pas si t'as déjà vu des gens qui n'ont jamais joué au foot. Mets-leur un ballon dans les pieds, mon pote. Moi, je l'ai fait, ça m'est arrivé de coacher des acteurs qui jouaient des films, qui allaient faire des footballeurs dans des films. Ouais. Je l'ai fait. Mais,
moment de gênance.
Mais quand tu leur jettes le ballon au départ, et que tu leur dis un simple contrôle,
la coordination,
simple, ouais. C'est le bordel. C'est incroyable. Tu vois ça, tu dis, mais comment ton corps est fait, en fait. Il y a un souci.
Comment il réagit?
Il est en kit.
C'est pas compliqué. Ouais. Cours avec un ballon. Ouais. Cours avec un ballon. Ouais, c'est vrai. Ça paraît simple.
Ouais.
Bah, je peux te dire que ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est très très compliqué, quoi. Donc c'est pas si simple en fait. Il faut, et en tout cas, ça vaut pas moins que de savoir résoudre une équation ou de savoir monter un modèle financier pour acheter des.
Tu vois, d'où la valeur des intelligences dont on parlait tout à l'heure.
Mais comme c'est pas valorisé de la même manière. Oui, le ministère des Sports, qu'est-ce qu'on en a branlé. Mais même, j'allais te dire, le ministère de la Culture aujourd'hui. Mm. Enfin, je veux dire, quand on vient à mettre Rachida Dati à la culture, franchement, enfin, tu vois, dis tout de suite qu'on s'en fout, quoi. Mm. Et ce sera plus simple, en fait. Tu vois. Mais même pas de ministère.
Ouais, ouais.
T'en as rien à branler, on a compris, quoi.
Ouais.
Mais tu vois, c'est dramatique parce que.
Donc ça changera pas pour toi, ça changera pas.
Je pense que ça peut changer, mais c'est des volontés politiques. Mais je pense que ça peut changer avec des générations. Moi, j'ai toujours confiance dans les générations qui vont venir. Bon, après, au bout d'un moment,
il va falloir que ça se concrétise. Il va falloir qu'elles arrivent quand même.
Mais tu vois, de la même manière que j'ai l'impression que le rapport homme-femme a quand même vachement changé, et que les générations, que le rapport à l'écologie a vachement changé. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui me font dire qu'on est quand même de moins en moins cons. Mm. Donc, j'ai bon espoir. Et en même temps. Bah, le populisme, c'est toujours pareil. Tu vois, plus tu as des trucs un peu. Le pays n'a jamais été autant à droite, et voire à l'extrême droite. Et en même temps, j'ai l'impression que tu as de plus en plus de contre-cultures intéressantes. Et donc, du coup, je me dis que peut-être.
Ça se régule.
Ça se régule et peut-être va émerger, tu vois, effectivement, toutes les contre-cultures un peu plus féministes, etc. Ça n'a jamais été aussi prégnant et ça n'a jamais été aussi intéressant. Et en même temps, c'est le pays qui est le plus. Dramatiquement à l'extrême droite qu'on ait connu depuis très longtemps, quoi. Et donc bon, voilà, c'est des équilibres à trouver, mais faut croire dans les nouvelles générations parce que sinon c'est trop triste.
Je te rejoins totalement sur le. Je pense que malgré tout, on est quand même une espèce et pour faire au-delà de l'espèce, on est quand même sur un pays qui se régule. Et je suis un peu naïf quand je crois à la régulation dans à peu près tout, et que au gré des succès, tu vois, pour rester dans le sujet, dans le foot et dans le sport d'un point de vue industriel, et que les gens vont comprendre qu'effectivement il y a des métiers, que les gens qui viennent des grandes écoles ont envie de les faire, donc on va se spécialiser, qu'on va avoir de bons entrepreneurs, on a d'excellents entrepreneurs français dans le sport, petit à petit tu vas gagner du terrain pour en faire un vrai enjeu, donc je suis un peu optimiste, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas je te rejoins complètement. SoFoot, c'est des belles histoires. C'est plus dur de raconter des belles histoires à l'époque du foot business.
Ouais, c'est plus dur à plein de raisons. C'est plus dur parce que les accès sont plus les mêmes, mais vraiment plus les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot business fait qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur a un contrat qui le lie à un média et donc du coup, il est payé pour parler. Ce qui est un énorme problème, en fait. C'est-à-dire que tout à coup, ta parole n'a plus, pour le coup, n'a plus la même valeur. C'est-à-dire qu'elle a une valeur qui est uniquement économique. Et donc, du coup, à partir du moment où tu es payé pour parler, en plus, il faut que tu fasses gaffe à ce que tu dis. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, les histoires les plus intéressantes, elles sont racontées par les anciens joueurs. Parce que les anciens joueurs ont une liberté retrouvée qui fait parce qu'ils ont pu cette épée de Damoclès, machin et tout, etc. Donc, du coup, ils peuvent raconter des histoires, et des histoires dingues. Tu vois, Edouard, il aura 10 fois plus d'histoires à raconter que n'importe quel joueur aujourd'hui de Ligue 1 qui ne va plus rien raconter parce que tout peut être problématique économiquement. Et donc, du coup, c'est devenu très frustrant à ce niveau-là. Et c'est sûr que les histoires, elles sont quand même plus complexes. Et par ailleurs, il y a aussi un peu moins de belles histoires parce que qui dit croissance économique très forte, etc., dit aussi souvent un petit peu concentration des richesses et concentration des succès et des pouvoirs. Et donc, du coup, tu te retrouves à avoir aujourd'hui tout le temps les mêmes équipes qui gagnent, grosso modo. Et ça devient une espèce de truc un peu fermé où tu as 15 équipes qui font la pluie et le beau temps en Europe. Et au-delà de ça, très peu arrivent à exister. Et donc, les histoires se font de plus en plus rares. Tu vois. C'est-à-dire que tu auras pu... J'ai très peur qu'aujourd'hui, il n'y ait personne qui puisse vraiment concurrencer le PSG pour gagner la Ligue 1. Tu vois. À chaque fois, on croit que... Ouais. On se dit, ah, un coup Lens, un coup Nice, un coup machin. Et on croit toujours un peu à la belle histoire. Mais finalement, ça dure peu de temps. Enfin, tu vois, c'est à la fin, malheureusement, les plus riches finissent toujours par l'emporter, quoi. Grosso modo, j'exagère un peu. Mais... Donc du coup, ça crée aussi moins de belles histoires. Parce que ce n'est pas dans ces clubs-là que tu as les plus belles histoires. Parce que ces clubs-là, ça devient des espèces de monstres qui finalement aseptisent tout et t'as de moins en moins d'aspects humains, en fait. Donc c'est de plus en plus difficile de trouver des choses à raconter. Donc c'est pas évident. Je dirais pas que la source est tarie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se battre beaucoup plus et trouver encore plus d'idées et rivaliser d'ingéniosité pour raconter les histoires qu'avant on n'avait pas trop de difficultés à raconter, parce que en plus c'était un peu émergent et t'avais un peu d'appétit pour ça, et puis tu rencontrais par bonheur quelques joueurs qui étaient sensibles à ça, tu vois, ce qui aujourd'hui est de moins en moins le cas parce qu'ils lisent de moins en moins. Voilà, et nous on a toujours une vieille vanne qui traînait à SoFoot, qui est un peu nul, mais qui était de dire si les footballeurs savaient lire, ils iraient SoFoot. Mais le problème, c'est qu'on leur donne pas. Ils savent lire, mais on leur donne pas à lire, tu vois. C'est un truc qui est devenu. Ça ne fait plus partie de leur univers. Parce qu'aujourd'hui, c'est mieux d'être sur Instagram. Tu scrolles plus que tu lis, quoi. Et ce que je peux comprendre, hein, c'est, je fais partie aussi de ce. Enfin, tu vois, c'est tout le monde. Non, mais tout le monde est happé par ce truc. Mais du coup. Il en reste quand même, malgré tout, suffisamment d'ailleurs pour que... Et puis tu arrives à aller en choper. Mais c'est plus difficile qu'avant. C'est sûr que c'est plus difficile qu'avant. Plus difficile.
Alors, c'est le moment où Maxime Marchand me menace en passant sa main devant sa gorge. Non, il me menace pas, mais il m'indique qu'on n'a plus de temps et c'est bien dommage parce qu'on aurait bien aimé que ça continue.
C'est quoi la réponse à tout ça?
Bah voilà, c'est ce que j'allais te demander, Edouard.
Parce qu'on a, c'était très, 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 très bon ça.
Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer dans les 20 prochaines années?
Ce qui doit changer, je sais pas s'il y a quelque chose qui doit changer, mais il y a quelque chose qui va changer, je pense, dans les 20 prochaines années. C'est qu'effectivement, je pense que quand la bête sera trop nourrie, elle va faire une petite indigestion et avoir craché tout ce qui est pas bien, j'espère. Et donc, du coup, ne restera plus que le bon substrat. Et on reviendra
à l'essentiel.
À l'essentiel et au foot, quoi. Qui est un peu oublié, quand même, souvent dans tout ça, quoi. C'est-à-dire que, et même d'ailleurs, tu vois, on le voit parce que les performances individuelles aujourd'hui sont vachement plus valorisées que les performances collectives.
Les gens sont fans de joueurs.
Ouais. Mmh. C'est fini. T'es moins fan d'une équipe que fan d'un joueur, tu vois. Et c'est bien le signe de quelque chose, tu vois. C'est bien, alors que c'est quand même avant tout un sport collectif. Enfin, tu vois, c'est tout à l'heure, quand Edouard il disait quand tu lis tel canard, il te parle que de Ronaldinho et machin, mais le foot ça peut pas être que ça. Le foot ce n'est pas que ça.
Tu prêches convaincu, j'ai dû expliquer à mes fils de 6 et 4 ans que Kylian Mbappé allait sûrement partir. Et c'était une discussion intéressante que je vous raconterai par ailleurs offline. Monsieur Cissé.
Tout nickel. Je peux pas rajouter plus parce que ce qu'il a dit, c'est parfait. Moi, je pense sincèrement que le substrat, le vrai substrat, résistera. Et puis, ce sera l'amour du foot, l'amour du jeu et l'humain. Le plus important, l'humain.
C'est un beau message, monsieur Cissé. On finit sur ces belles paroles. Franck, merci beaucoup.
Merci à vous, c'était cool.
C'était un régal.
Merci le canari.
Petit erratum de la rédaction. Rémi est né à Bourg-la-Reine. Pas à Créteil, je dis Créteil, c'est quand même à 900 km de Marseille, hein, on va comprendre, mais c'était important de rectifier. Merci à tous. Comme d'habitude, commentez, likez. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets aussi. On rappelle que le sujet des ultras, il nous avait été suggéré par un poditeur. Et on le remercie. Et on se retrouve très vite.
Ah, ciao.
Salut.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.